Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci pour votre fidélité à Métropolez-vous et bienvenue à tous ceux qui découvrent pour la première fois cette émission. Peut-être en avez-vous entendu parler, une étude récemment parue montre que l'Europe a perdu plus de 400 millions d'oiseaux d'espèces communes durant les 30 dernières années. Une véritable hécatombe qui a beaucoup choqué l'opinion, pas seulement les amis des bêtes, parce qu'il s'agit aussi d'un signal d'alarme pour l'environnement dans lequel nous vivons et par extension pour l'humanité tout entière. Il y a bien sûr plusieurs raisons à ce déclin des populations d'oiseaux européennes, liées pour certaines à la destruction de leur habitat, à la raréfaction de leur nourriture ou à la pollution de l'eau et des sols. Qu'en est-il sous nos latitudes? Il m'a semblé intéressant de faire un état des lieux sur notre territoire en consacrant ce numéro de Métropolez-vous à la question « Quelle est la situation des populations d'oiseaux dans la métropole toulousaine ?» Et lorsqu'on parle des oiseaux, de leur population et de leur protection, le nom d'un organisme vient tout de suite à l'esprit, celui de la Ligue pour la protection des oiseaux, plus connue sous le sigle LPO. La LPO a une antenne en Haute-Garonne et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui son délégué Gwenaël Desmortier, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie d'avoir répondu à mon invitation. Comme il y a peut-être parmi nos auditeurs des personnes qui ne savent pas très bien ce qu'est la LPO, est-ce que vous pouvez nous préciser à quand remonte sa création et ce que sont ses objectifs, ses actions et son organisation ?
La LPO, c'est donc la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une association qui a été créée en 1912. Donc, elle a un petit peu plus de 100 ans maintenant. C'est la plus ancienne association de protection de la nature en France. Et elle a pour objectif la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et en particulier la faune et la flore qui y sont associées.
Je découvre, grâce à vous, que la LPO existe depuis 1912. Je pensais que c'était beaucoup plus récent, puisque vous l'avez entendu parler de ces actions, je crois, les premières dans les années 80-90. En tout cas, c'est là qu'elles ont été le plus médiatisées. Quand je parlais de son organisation, il y a une association au niveau national, la LPO nationale, mais il y a aussi des antennes locales ou départementales, et celles-ci sont totalement indépendantes de l'association nationale.
Alors, dans la structure de la LPO, il y a en effet l'association nationale, qui est basée à Rochefort. Le siège de l'association est à Rochefort. Et ensuite, elle est répartie par association locale sur certains départements ou éventuellement association régionale. Pour ce qui concerne la Haute-Garonne, c'est ce que l'on appelle un groupe, car nous sommes directement dépendants de l'association nationale. Notre président est M. Alain Bougrain-Dubourg, qui est le président de la LPO nationale.
Et donc, concernant le groupe Haute-Garonne, je crois qu'il est vraiment de création récente.
Le groupe de la Haute-Garonne a été créé en 2014. Il compte actuellement un peu plus de 600 adhérents. Ça représente également un peu plus de 250 refuges LPO. Et nous sommes actuellement une douzaine de bénévoles actifs. Par contre, ce groupe n'a pour l'instant pas de salariés. Nous ne sommes que des bénévoles.
J'en viens à une question un peu plus personnelle maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous engager pour cette cause et à quand remonte votre passion pour les oiseaux? Quelle forme elle a pris jusqu'alors?
Alors, la passion pour les oiseaux, pour les animaux en général, elle remonte à très, très longtemps, lors de l'enfance. Je fais partie de la génération qui, à l'époque, suivait à la télévision
les animaux du monde.
Les animaux du monde, et puis également ce qui était Dactari à l'époque. Donc, un intérêt particulier pour les vétérinaires. Je souhaitais être vétérinaire lorsque j'étais jeune. Malheureusement, la vie en a fait autrement. Mais la passion pour les oiseaux s'est développée petit à petit. L'intérêt pour leur beauté, pour le fait que ce soit des animaux qui volent, ça fait partie des choses très attractives.
Et puis aussi la variété, parce qu'il y a énormément d'espèces, avec parfois des couleurs, une parure magnifique.
Tout à fait. Quelque chose de très émouvant à voir, à entendre également. Et donc ça a porté mon intérêt sur la chose également.
Et votre engagement à la LPO remonte à 2014 ou vous étiez déjà engagé auparavant?
Je suis adhérent à la LPO depuis une vingtaine d'années maintenant. Par contre, en effet, sur la Haute-Garonne, nous avons choisi il y a 4 ans avec d'autres amis ornithologues et passionnés des oiseaux également de créer ce groupe puisqu'il n'y avait pas de structure au niveau du département.
Eh bien, merci de nous avoir permis de mieux faire connaissance avec vous, avec votre passion pour les oiseaux et d'avoir précisé les actions et les objectifs de la LPO et son organisation. Nous allons nous intéresser à la situation des populations d'oiseaux sur le territoire de la métropole toulousaine dans quelques minutes. Pour l'instant, il est l'heure de retrouver Corinne Saint-Félix pour son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et l'actualité métropolitaine, ce sont d'abord les transports avec l'échangeur du Perget, un projet qui doit sécuriser et fluidifier la circulation dans l'ouest de Toulouse.
Oui, cet échangeur situé entre la route nationale 124, aménagée à 2x2 voies qui relie Toulouse à Auch, et la route départementale 82 qui dessert l'ouest de Colomiers et les zones d'activité du Perget, d'Angeaca et de Pain, avec un trafic pouvant atteindre 3000 véhicules par heure sur le giratoire Terre et 1000 par heure sur la route départementale 82 venant d'Angeaca. Le projet consiste à réaménager la bretelle de sortie sur la route nationale 124 en déboîtement à une voie et mettre à 2 voies son raccordement sur le giratoire Terre, mais aussi de créer une ramification de la bretelle précédente pour permettre aux usagers de rejoindre directement la route départementale 82 côté zone d'activité du Perget en évitant le giratoire Terre.
C'est enfin le printemps, bien qu'il soit un peu timide pour l'instant, et c'est la saison où il est de coutume de faire le ménage. Le ménage de printemps se fait aussi les pieds dans l'eau. Les berges des canaux de la Garonne ont été nettoyées.
Oui, samedi dernier, Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse ont organisé une demi-journée de nettoyage des berges du canal latéral de Garonne, du canal du Midi et de la prairie des Filtres pour la Garonne afin de restaurer la propreté de ces sites naturels, mais aussi de sensibiliser les usagers et riverains sur la fragilité de ces écosystèmes en ville. 5 sites de ramassage ont été sélectionnés pour cette opération de nettoyage. Le port de l'Embouchure, la prairie des Filtres, passerelle Charles-Bourseul, Capitaine Riport-Saint-Sauveur et les serres municipales. Des animations pédagogiques sur le tri des déchets ont été organisées. Cette 4e opération de nettoyage volontaire s'inscrit dans le cadre du plan canal et du plan propreté. En 2016, 12 mètres cubes de déchets ont été ramassés.
Le printemps et sa douceur donnent des ailes et le soleil fait chanter les oiseaux, n'est-ce pas Corinne ?
Oui, vous chantez très bien aussi Eric. À cette occasion, le Muséum de Toulouse, équipement de la métropole toulousaine et la Ligue pour la protection des oiseaux organisent des rendez-vous pour découvrir en s'amusant les oiseaux du ciel toulousain. Rendez-vous pour commencer dimanche 13 mai où vous pourrez partir à la découverte des chants d'oiseaux dans les parcs et jardins publics toulousains. Autre rendez-vous le dimanche 27 mai où vous pourrez identifier et compter les oiseaux des jardins du muséum à Bordeaux Rouge et ainsi participer au grand week-end national de comptage des oiseaux des jardins. Grâce à vos observations et aux données saisies, vous aiderez à alimenter l'observatoire participatif Oiseaux des jardins mis en place par la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et glanerez des informations sur les chants d'oiseaux et leur rôle comme auxiliaires dans les jardins et potagers. En attendant, vous pouvez toujours découvrir ou redécouvrir l'exposition Rapaces au Muséum de Toulouse. Vous pourrez en savoir plus sur les caractéristiques de ces prédateurs qui ont même inspiré l'aéronautique. C'est à voir jusqu'au 29 avril.
Voilà, c'était donc le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix et Gwenaëlle Desmortiers. Je pense que vous voudrez sans doute réagir à la dernière info de ce flash et peut-être nous donner quelques précisions sur le contenu et le déroulement de ces journées des dimanches 13 et 27 mai.
Alors, concernant le déroulé de ces sorties, les inscriptions sont à faire auprès du Muséum de Toulouse. Pour la première sortie sur les chants d'oiseaux, donc ça se fera manifestement au jardin de Compans-Caffarelli. Et puis pour la seconde sortie, le comptage des oiseaux des jardins donc, aura lieu à Bordeaux Rouge dans les jardins du muséum. Et comme l'a dit votre animatrice tout à l'heure, en effet, cela rentrera dans le cadre du comptage des oiseaux des jardins au niveau national.
Est-ce qu'il faut que les gens qui vont venir donc participer à ces journées viennent avec de quoi noter ou un équipement particulier, des bottes, je ne sais quoi?
Alors, pour ceux qui aient des bottes, ça dépendra de la météo, bien entendu. Mais s'il pleut,
il faut
en général,
les
sorties sont annulées en général lorsque la météo n'est pas favorable. Mais autrement, si les personnes peuvent venir avec leur propre matériel d'observation, donc des jumelles, c'est une bonne chose. Mais au niveau de notre groupe, nous pouvons également fournir quelques équipements qui sera limité. Donc la totalité des personnes participant aux sorties ne pourront pas nécessairement avoir du matériel du groupe. Il est à noter par contre qu'il est impératif de s'inscrire auprès du muséum.
C'est bien noté, merci pour ces compléments d'information. Nous allons maintenant prolonger notre échange en explorant plus avant le thème de cette émission consacrée, je le rappelle, à la situation des populations d'oiseaux dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, Gwenaëlle Desmortiers, déléguée de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Haute-Garonne. Pour poser les bases de notre échange, il me semble nécessaire de faire un tableau, le plus complet possible sans être exhaustif bien sûr, des espèces d'oiseaux présentes dans la métropole toulousaine, en séparant peut-être espèces sédentaires et espèces migratrices. Quelles sont les principales espèces ou les principales familles d'oiseaux que l'on trouve sur le territoire métropolitain, qu'ils soient urbains ou naturels ?
Alors, sur la métropole de Toulouse, nous pouvons compter environ une centaine d'espèces d'oiseaux nicheurs. Parmi ces 100 espèces, une trentaine sont des espèces migratrices. Parmi les oiseaux communs que l'on peut trouver sur la ville de Toulouse et sur l'agglomération toulousaine, on va bien sûr avoir les moineaux, moineaux domestiques, moineaux friquets, les pigeons, pigeons bisets, pigeons ramiers également, les étourneaux, sansonnets, tout ce qui est jais, les goélands que l'on peut retrouver sur les bords de Garonne également, ainsi que les moitrieuses. Et puis dans les jardins, les mésanges, mésanges bleus, mésanges charbonnières, la bergeronnette grise, en bord de Garonne, la bergeronnette des ruisseaux également. Par contre, sur la ville de Toulouse, nous avons la chance d'avoir quelques oiseaux un peu plus rares. En particulier, la ville de Toulouse abrite une colonie de martinets pâles qui nichent dans des infractuosités de murs au niveau des berges de la Garonne. Cette espèce est une espèce migratrice. Elle compte actuellement entre 30 et 40 couples maximum. Et donc c'est une espèce d'oiseau qui n'est pas encore arrivée actuellement, qui va arriver vers le mois de mai. Également le faucon pèlerin, qui est très présent sur l'agglomération toulousaine. Mais pour l'instant, malgré la pose de plusieurs nichoirs sur la ville de Toulouse et sur les environs, l'espèce a tenté de s'installer mais ne s'est pas encore reproduite. Et puis pour les espèces insolites, non loin des bureaux de la station
de radio,
nous avons des perruches à collier qui commencent à s'implanter de plus en plus au niveau de la ville de Toulouse et qui viennent nicher dans des trous d'arbres et des trous de platanes en particulier.
Essentiellement en bordure de Garonne ou est-ce qu'ils sont un peu plus dans les terres ou dans la ville en tout cas, dans les jardins ou...
Les perruches, on peut les apercevoir jusqu'à Purpan, l'école vétérinaire, dans différents quartiers de la ville de Toulouse. Ils sont très présents sur le Courdillon également. Mais donc cette espèce, c'est une espèce qui est introduite, qui est échappée
de volières particuliers,
tout à fait, exactement. Quelques individus, quelques couples au départ, et puis qui se reproduisent naturellement. Et donc maintenant, la population est en train de grandir sur la ville.
Et moi, j'en ai observé à Blagnac aussi, au niveau du parc des Ramiers, au bord de la Garonne. On en voit, on les entend. On les entend d'abord, on les voit ensuite. Alors j'ai cru comprendre que c'était un peu général dans beaucoup de grandes villes d'Europe, ça.
En effet.
Ces perruches à collier là, qui se répandent.
Cette espèce s'adapte très facilement. Elle provient d'Afrique et d'Asie, mais au niveau de l'Europe, elle s'est fréquemment échappée de volières. Et on va la retrouver dans des grandes villes principalement, en partant de Barcelone, Montpellier, toute la côte méditerranéenne, en descendant jusqu'à Rome par exemple. Et puis en remontant et ensuite sur la région parisienne, on en trouve dans les jardins du château de Versailles par exemple. Également une population très abondante dans l'agglomération bruxelloise.
Alors, vous avez parlé de quelques espèces migratrices. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font étape ou qui se reproduisent sur le territoire métropolitain ? Je pense notamment à l'axe de la Garonne, aux bordures de la Garonne.
Alors, c'est vrai que l'axe de la Garonne est une zone très intéressante pour le passage des oiseaux migrateurs. Les nombreuses gravières que l'on va retrouver en bordure de Garonne permettent d'abriter temporairement des espèces telles que ce que l'on appelle les limicoles, les petits échassiers, les chevaliers, chevaliers guignettes, chevaliers gambettes, et quelques bécassous également qui vont traverser les Pyrénées, qui vont remonter en suivant le cours de la Garonne.
Vous parlez du bécassou maubèche, hein,
ou... Non, lui est plutôt marin, mais le bécassou variable, on va retrouver quelques individus et quelques oiseaux plus rares, le bécasseau de Téminque, bécasseau Cocorli, on va pouvoir avoir quelques individus qui vont passer, que l'on va pouvoir observer sur les gravières.
Et je pense à une espèce aussi qui, à l'origine, n'était pas observée sur la Garonne, qui est arrivée il y a 25 ou 30 ans, je pense au grand cormoran. Où en sont les populations de cet oiseau ? On sait qu'il y a des quotas de tir, puisqu'il pose des problèmes. On en est où là-dessus ?
Alors, le grand cormoran est un oiseau qui se reproduit le long de la mer du Nord, en Hollande en particulier, et donc ce sont principalement des oiseaux hivernants que l'on retrouve sur les bords de la Garonne et sur les plans d'eau du département également, dans tout le sud-ouest et au niveau national du reste. Mais la plupart de ces oiseaux vont remonter pour la reproduction. Seuls quelques individus les plus jeunes qui ne vont pas se reproduire vont rester sur la région. Mais il est difficile de dire que la population est en augmentation. Ce sont les populations hivernantes qui sont en augmentation sur le secteur. Il y a en effet, malheureusement, des quotas de tir sur bon nombre de départements français, mais ça n'empêche de voir la stabilisation de l'espèce, malgré tout.
Oui. Il y en a quoi ? Il y en a plusieurs milliers qui sont dans l'axe Garonne, mettons de Toulouse à Grenade, par exemple, voire un peu au-dessus de Toulouse. Parce que moi, j'en observe beaucoup, hein, au Bazacle notamment. Hein.
En effet, pendant l'hiver, sur le département peut recevoir plusieurs milliers de ces oiseaux qui se regroupent le soir en dortoir pour passer la nuit.
Alors, on parle d'espèces donc là dont les effectifs ont augmenté ces dernières décennies. Il y en a d'autres qui diminuent. Aujourd'hui, sur le territoire de la métropole, quelles sont les espèces qui sont en danger, en tout cas en forte diminution ?
Alors, sur les espèces, on va dire en danger, on va parler principalement de passereaux, les petits oiseaux. On va avoir en particulier les hirondelles rustiques, les hirondelles de fenêtre qui vont être touchées. Au niveau national, par exemple, les populations d'hirondelles rustiques ont diminué d'environ, alors on parle de 39%, c'est un chiffre bien précis, mais c'est par rapport aux comptages qui ont été effectués, baisse de 39% entre 1989 et 2013. Pour les hirondelles de fenêtre, on parle de moins 21% entre 2004 et 2013, également au niveau national. Les chiffres sont peut-être un peu moins précis sur le département, mais malheureusement, les populations sont...
C'est-à-dire que les tendances sont les mêmes. Les tendances
exactement.
On observe
exactement.
Les mêmes tendances. A contrario, est-ce qu'il y a des espèces dont les effectifs augmentent vraiment de façon très nette ?
Alors, on va voir certaines espèces qui vont mieux s'adapter, voire qui vont commencer à coloniser la région, et des espèces que l'on ne voyait pas nécessairement avant. Vous avez certainement déjà vu les petits hérons blancs dans les prairies. Ce sont les hérons garde-bœufs. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, ils n'étaient quasiment pas présents sur la région ou très très peu. Les premiers arrivants qui arrivaient d'Afrique étaient plutôt migrateurs, ils repartaient pour l'hiver. Et puis, chemin faisant, les hivers n'étant plus aussi rigoureux qu'ils l'étaient par le passé, ils se sont acclimatés. Et on a maintenant des populations qui sont
sédentarisées vraiment.
Et qui sont d'une part sédentarisées et d'autre part qui continuent à progresser régulièrement.
Hérons garde-bœufs, ne pas confondre avec l'aigrette, ce n'est pas la même chose.
Tout à fait. Ce sont deux héronidés, donc ils sont de la même famille d'oiseaux, mais ce sont bien deux espèces différentes. Le héron garde-bœuf, c'est celui que vous voyez dans les prairies très fréquemment en groupe, là où vous avez du bétail et qui cherche donc les insectes autour des animaux, autour du bétail, des vaches en particulier ou des moutons. Et l'aigrette garzette, elle, vous allez la trouver beaucoup plus fréquemment au bord des plans d'eau et toujours en petit nombre.
Alors, on peut parler maintenant de l'habitat des espèces présentes sur le territoire de la métropole et des principales zones de peuplement. Il y a des espèces qui sont typiquement urbaines, il y a des espèces qui, au contraire, ont besoin d'espaces très sauvages et de plus de tranquillité aussi, sans doute. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit panorama ?
Alors, dans les espèces urbaines ou tout au moins inféodées aux environs des habitations humaines, vous allez avoir les hirondelles, l'hirondelle de fenêtre en particulier. L'un des soucis avec les hirondelles de fenêtre, c'est lorsque l'on vient à faire des travaux, on est souvent tenté de détruire les nids. Donc, c'est un facteur pénalisant pour l'espèce. Et il faut savoir également que c'est malgré tout une espèce protégée et que... Il est recommandé en tous les cas de plutôt prendre des mesures de protection et d'aménagement pour maintenir les espèces plutôt que de détruire. Il faut savoir que comme c'est une espèce protégée, les personnes qui détruisent les nids d'hirondelles peuvent potentiellement s'exposer à des sanctions. C'est une amende de l'ordre de 15 000 euros et ça peut monter jusqu'à une année d'emprisonnement. Donc il faut être prudent et plutôt tenter de réaménager les nids. Il faut savoir qu'il est possible de poser des nids artificiels. Avec les hirondelles de fenêtre, cela fonctionne très très bien. Elle recolonise assez facilement les lieux. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas être incommodées par les salissures au pied des nids, il est tout à fait possible d'adapter du matériel qui permette de collecter les fientes des oiseaux et d'éviter qu'elles ne tombent au sol et qu'elles souillent le pas de porte, par exemple, ou le balcon.
Alors on a parlé tout à l'heure de l'axe de la Garonne, des bords de la Garonne. Il y a une autre zone à laquelle je pensais qui me semble intéressante, c'est la zone de l'aéroport. On sait que les aéroports sont souvent très fréquentés par les oiseaux, ce qui pose des problèmes d'ailleurs pour les avions. Les oiseaux peuvent aller taper contre les vitres de l'habitacle ou rentrer dans les réacteurs. Qu'est-ce qu'on trouve comme espèce à l'aéroport de Blagnac et d'ailleurs, je suppose, pas mal de rapaces, entre autres.
Oui, tout à fait. La zone aéroportuaire et les abords des pistes sont des zones dégagées, rases, pour l'entretien des pistes en particulier. Et donc, les oiseaux viennent chasser les petits rongeurs, donc que ce soit les buses, les faucons cresserelles, le milan noir également. Ça va attirer par endroits également des petits passereaux de plaine, les alouettes par exemple, qui peuvent à leur tour attirer éventuellement l'épervier. Donc, ce sont des oiseaux qui ne nichent pas nécessairement sur place, mais qui vont être attirés par la zone de chasse. Et donc, en nombre important, ces oiseaux peuvent, oui, malheureusement, si ils passent dans les réacteurs d'avion, provoquer des dégâts. En effet, c'est une zone favorable pour les oiseaux, mais
dangereuse.
Dangereuse pour eux également.
Alors, vous avez parlé des interventions, des actions de la LPO au niveau national. Maintenant, quelles actions vous menez dans la métropole, sachant que vous êtes pour l'instant un groupe encore jeune et qui a besoin de se structurer? Est-ce que vous faites déjà, je suppose que oui, on en a parlé là, lors de l'information concernant le flash, les journées du 13 et du 27 mai, est-ce que vous faites des comptages, des sorties d'observation, de la vulgarisation, peut-être déjà des interventions, de la sensibilisation auprès des scolaires? Dites-moi un peu tout ça.
Alors, nous faisons en effet des animations de sortie. À ce sujet, vous pouvez retrouver notre planning de sortie sur notre blog en tapant lpohaute-garonne.com, tout simplement. Sur ce blog, vous retrouverez notre agenda avec toutes les sorties. Nous nous efforçons d'effectuer une sortie collective par mois. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous faisons maintenant également des sorties en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. D'autre part, nous effectuons également en particulier un suivi d'espèces concernant le milan royal. Alors, ça n'est pas sur l'agglomération de Toulouse, mais c'est sur le sud du département, suivi des dortoirs de milan en hiver, suivi d'une zone géographique pour la reproduction également, dans le piémont pyrénéen. Nous nous efforçons également de développer le réseau refuge LPO, qui consiste en adhérer à un réseau assurant tout au moins des zones de quiétude au niveau des jardins privés ou publics. D'autre part, nous effectuons également des tenues de stand pour des événements dans les environs. Nous tenons un stand sur le Bio-Garonne à Toulouse et également Festi Jardin Nature et Plantes à Pibrac.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions qu'ils ont prévues dans les années à venir lorsque vous aurez un peu plus d'effectifs pour ça, hein, auprès des scolaires notamment, hein,
Alors, il est vrai que nous sommes très sollicités par les écoles pour des animations auprès des enfants. Vu la situation de notre groupe avec des bénévoles, la plupart d'entre nous sommes encore en âge de travailler. Donc malheureusement, pas tellement disponibles en semaine pendant les horaires d'ouverture des écoles. Donc actuellement, ça nous pose quelques petits soucis. Mais bien entendu, oui, c'est un axe de développement du groupe pour l'avenir.
Alors, autre question que je me posais, quelle relation vous avez actuellement avec les collectivités, les communes de la métropole toulousaine et Toulouse Métropole elle-même? Est-ce qu'il y a, à ce jour en tout cas, ou peut-être prévu dans les années à venir, des réunions communes, des concertations, des actions en commun, notamment peut-être lorsqu'il s'agit de grands projets où l'environnement est très concerné? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui?
Alors, jusqu'à présent, nous n'avons pas trop été sollicités par les collectivités, en effet, par les grands projets de l'agglomération toulousaine, mais parce que notre groupe est récent. Et malheureusement, nous avons un peu pris le train en marche sur les projets existants. Par contre, nous faisons partie des associations qui sont sollicitées par les collectivités sur les grands projets liés à l'environnement.
Je pense notamment au Grand Parc Garonne ou au Nouveau Parc des Expositions, hein, qui sont des chantiers qui concernent très directement la faune et la flore.
Tout à fait.
Pour l'instant, vous n'avez pas été consulté, je suppose, parce que le groupe est trop jeune.
Exactement.
Dans les années à venir, ça devrait être le cas.
Exactement. Pour les prochains projets de ce type sur l'agglomération toulousaine, nous devrions faire partie des associations sollicitées, en effet. Oui.
De manière générale, que ce soit au niveau de la Garonne ou au niveau national, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté par les institutions publiques et que vos recommandations sont prises en compte?
Alors, au niveau national, oui, l'influence de la LPO sur certains projets est manifeste et les prises de position de la LPO sont généralement écoutées. Alors, parfois avec des décalages ou des délais, mais certaines idées, en tous les cas, finissent par être écoutées et prises en compte. Parmi les objets de la LPO, il y a également le fait de vouloir faire respecter les différentes réglementations qui sont votées, qui sont passées. Et vous avez entre autres le braconnage qui est sanctionnable et vous avez les chasses dites traditionnelles qui ne sont pas toutes en tous les cas légales.
Pensez aux ortolans, je suppose, entre autres.
Tout à fait, vous m'avez vu venir. Et donc en effet, l'association influencée a joué un rôle prépondérant puisque précédemment, la chasse à l'ortolan était tolérée, bien qu'elle soit illégale. Et depuis l'année dernière, depuis 2017, l'interdiction est devenue effective.
Alors, quelque chose de très pratique maintenant pour les personnes qui se sentent concernées. Que faut-il faire ou à qui faut-il s'adresser lorsqu'on trouve un oiseau blessé, malade ou un jeune tombé du nid ou perdu? Ou si l'on trouve un oiseau ou plusieurs oiseaux morts et que ça nous semble suspect?
Alors, le fait de trouver un oiseau au sol, tout d'abord, surtout au printemps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est blessé. Les jeunes oiseaux intrépides peuvent facilement tomber du nid avant même de savoir voler. Et donc, si l'oiseau que vous avez devant vous est assurément un jeune oiseau, il est encore avec du duvet, les plumes des ailes ne sont pas encore complètement formées, cet oiseau, il n'est pas nécessaire de le soigner. Il suffit très généralement de le poser en hauteur, de façon à ce que ses parents puissent continuer à le nourrir. Le mettre en hauteur pour éviter qu'un prédateur puisse venir le manger au passage. Mais ses parents, dans ce cas-là, sauront très bien continuer à s'occuper de lui jusqu'à son envol.
Donc on peut le toucher, il n'y a pas de risque que les parents l'abandonnent comme pour un mammifère par exemple?
Là, en l'occurrence, pour les oiseaux, il n'y a absolument aucun risque, non. Ça ne portera pas du tout préjudice aux jeunes. Par contre, après, sur des oiseaux adultes blessés, là, en effet, alors il faut d'abord savoir que la plupart des espèces sont des espèces protégées, donc on n'a pas le droit de les détenir. C'est-à-dire que si on veut les apporter vers un centre de soins, il faut en informer généralement l'ONCFS, qui est l'organisme de surveillance de la faune sauvage. Et donc, on peut ensuite emmener ces oiseaux blessés ou ces animaux, puisqu'on parle principalement des oiseaux, mais ça peut être d'autres animaux également, vers les centres de soins. Et le centre de soins le plus proche de Toulouse, c'est l'école vétérinaire de
Purpan.
Qui est à Purpan, tout à fait, l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Puisque les autres centres de soins des environs sont l'un basé à côté de Castres, qui était un centre de soins LPO, et un autre centre de soins au domaine des oiseaux à Mazères.
Nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à vous, Gwenaëlle Desmortiers, d'être venue à Métropole et vous pour faire ce point sur la situation des populations d'oiseaux dans la métropole toulousaine et sur les actions qui mènent la LPO. Je le rappelais en début d'émission, la baisse des populations de certaines espèces d'oiseaux en Europe en général, en France en particulier, a pris vraiment des proportions alarmantes ces dernières décennies. On ne peut pas y rester indifférent parce qu'il va sans dire que la disparition programmée de certaines espèces animales est aussi une très mauvaise nouvelle. Pour les humains que nous sommes, il faut en prendre conscience et il faut essayer de comprendre les raisons de ces évolutions pour trouver les solutions qui peuvent permettre de les enrayer. Si vous voulez vous informer, vous renseigner, vous engager ou tout simplement participer aux actions sorties programmées par la LPO de Haute-Garonne, je vous invite à consulter son site internet www.lpohaute-garonne.over-blog.com et puis vous pouvez bien sûr consulter le site de la LPO au niveau national www.lpo.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.